dans la vieille ville du Hébron, c'est un axe est-ouest, ça relie Kiryat Arba à Tel Roumeida, et donc 5 petites colonies comme ça, ça représente environ 500 à 600 colons, qui sont évidemment gardés et protégés par l'armée, environ 1500 à 2000 soldats. Et ces colons ont pris possession des maisons palestiniennes, ils tirent dans les réservoirs d'eau. Ça devient invivable pour les Palestiniens pour cette ville de la Vélie.
De la mosquée d'Ibrahim, voilà par exemple des travailleurs qui essayent de faire passer la menuiserie. Donc ils sont obligés de passer évidemment par le checkpoint.
Dans les tours. Voilà. Et c'est le comité de réhabilitation de l'Hébron. C'est quelque chose de reconnu à Hébron. Et ils ont tous le même gilet, ils sont reconnus, tout le monde, les soldats israéliens les connaissent, savent qui ils sont, mais voilà, on les oblige quand même à passer leur matériel par les comités, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et ça, c'est à l'entrée de la mosquée d'Abraham, évidemment gardée par les soldats israéliens. Et c'est là que je disais effectivement que la présence internationale n'est plus aussi efficace que depuis quelques années. Nous étions donc là, nous recevions le rappeler à Abraham, et il y avait un groupe de jeunes gens qui voulaient rentrer, qui avaient des sacs avec des affaires qu'ils avaient achetées. Donc on s'est arrêté pour voir comment se comportaient les soldats avec eux. Et le soldat nous regardait d'un air ironique et il leur a fait tout sortir, enlever la ceinture, du pantalon, regarder tout ce qu'ils avaient dans les sacs, tout sortir comme ça. Et sachant que nous, on regardait. Et voilà, c'était peut-être encore pire que si on était partis. À la limite, ça avait eu l'effet inverse. Et voilà, ça c'est très grave, ça c'est vraiment très grave parce qu'il y a 3-4 ans encore, ils auraient eu une autre attitude que celle qu'ils avaient là.
Et ce qui a peut-être changé aussi, c'est qu'ils sont systématiquement en train de filmer avec leur iPhone, les internationaux en particulier, et on sent qu'à chaque fois qu'on s'est approché des soldats dans plusieurs situations, ils sortent leur iPhone, c'est assez discret. Un autre jour, nous avions rendez-vous avec Anwar Abou Eché, du Centre Hébron France. C'était juste après les élections, donc d'Hébron municipal, et il est 11e adjoint, je crois, 3e, hein, je l'ai retenu 11e, il est 3e adjoint, il a toutes sortes de portefeuilles, celui de la transparence, celui des droits de l'homme, des relations internationales, on en passe. Et ça, c'est le Centre Hébron France, c'est le volet du Centre Hébron France qui est consacré aux enfants d'Hébron. Dans la même ville, on voit d'ailleurs des activités de ces enfants, il y a une bibliothèque, une bibliothèque. Une salle informatique n'avait pas de poste informatique, mais une préposée à l'informatique, donc on suppose que c'était passager. Voilà. Donc on a fait un petit tour de la vieille ville avec lui. Et ça c'est dans un centre commercial en haut. Il y a quelques malls comme ça qui ont poussé récemment dans le centre de Hébron. Et c'était juste pour vous montrer que voilà, il y a des étages entiers dans lesquels il n'y a aucun commerce, mais on sent qu'il y a eu quand même il y a eu de l'argent pour faire sortir du sol des très grandes constructions, mais après ça ne suit pas. Donc, juste un petit retour à Bethomar, pour vous dire tout ce qui s'est passé à Bethomar pendant qu'on y était, ce dont on a eu un écho en quelques jours seulement dans le village de Bethomar, puisqu'on allait à Hébron et on dormait à Bethomar juste à côté, on faisait des allers-retours. Donc, pendant qu'on y était, un matin, on a appris qu'il y avait une arrestation pendant la nuit. C'était deux maisons à côté de chez nous, mais il y a, effectivement, on vérifie tout en rentrant parce que son époux fonctionne par le bouche à oreille. Et c'était deux jeunes du village de 19 et 20 ans, de frères, qui ont été arrêtés. Donc tout à l'heure, Rachida parlait d'un jeune qui a été arrêté dans une famille. On nous a parlé de Sharif qui a été arrêté plusieurs fois. Et vraiment, c'est le lot de toutes les familles maintenant d'avoir des jeunes arrêtés. Et dans la famille, on nous a relaté ce fait d'une arrestation dans la nuit, simplement pour nous dire que ça avait réveillé l'une des jeunes filles. Mais quand on demande des précisions, voilà, c'est quelque chose d'absolument banal et qui se produit toutes les semaines. Voilà, il n'y a pas de quoi en faire un événement pour eux, évidemment. Autre événement qui s'est produit, il y avait les élections municipales aussi à Bétomar. Hein. Tu te souviens du sport où c'est Fatah qui l'a
emporté. Cinq sièges pour Fatah. On a eu deux sièges pour Al-Mubadara, c'est-à-dire le parti de Mustafa Barghouti. Trois pour le FPLP, le Hamas n'ayant pas participé aux élections. Il n'y a donc pas de siège pour le Hamas. Et sinon, il y avait deux familles de Bétomar également qui s'étaient présentées, disons, sans parti politique. Voilà, donc Bétomar et Fatah.
Autre fait qui nous a été relaté, mais vraiment le dernier jour, parce que la veille de notre départ, en fait, on est allé voir le mari de l'une des filles de Fatih. Qui nous a proposé de venir voir sa maison. Donc on est arrivé dans une demeure un peu délabrée et dans un espace minuscule. Il a deux enfants, donc ils sont trois enfants, pardon, ils sont quatre, cinq à vivre dans une pièce et demie, avec tout, cuisine, salle de bain, tout inclus, hein, dans les deux pièces. Et ils nous ont montré en fait la maison qu'ils sont en train de construire, hein, qui est sur les hauteurs de Bétomar. Donc, dont la construction est bien avancée et qui a été brutalement interrompue. Voilà, parce qu'il y a une colonie toute proche, hein, voilà, qui a une encadrure, la colonie en face. Donc il y avait plusieurs maisons en construction à cet endroit-là, et dont la construction a été interrompue.
Par Israël, bien sûr. Hein, ils ont reçu un papier officiel du gouvernement israélien leur interdisant de poursuivre la construction de la maison. Voilà, donc les conséquences, ils vont continuer à vivre dans leur une pièce et demie. Et alors qu'ils avaient l'espoir de enfin pouvoir s'installer convenablement dans une maison. Et ça veut dire qu'ils vont devoir aller en justice. Essayer de faire débloquer ce truc. Bon, c'est un peu peine perdue et ils le savent. Et évidemment, c'est très très dur pour eux. Voilà, c'est pas les seuls, hein, c'est pas un cas unique, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui se passe tout le temps.
Vous avez le permis ?
C'est leur terre.
C'est la terre, de génération en génération.
Et donc, voilà, ils avaient d'ailleurs des vergers sur cette terre, et donc ils avaient décidé de construire la maison là-dessus. Mais bien sûr, évidemment.
Le haut des collines, c'est réservé à la race des Sahélois.
Voilà.
Les Palestiniens, c'est en bas.
C'est en bas. Et donc cette horrible colonie, en fait, ce truc qu'on a déjà la poule, là, se trouve, je sais pas, à 10 km de cette maison. Et cette colonie, d'ailleurs, elle est tout près de Halboul. Je ne sais pas si vous voyez derrière là. Et vous voyez, Halboul, c'est juste avant d'arriver à Hébron. Et donc, elle est vraiment presque collée à Halboul. Et à chaque fois, c'est des heurts entre les gens de ce village palestinien. D'ailleurs, hein. Et cette colonie, c'est tout le temps, c'est en permanence. Hein. Voilà, pour le temps fond là, et donc voilà la colonie aussi.
Puis on peut bien voir que ce n'était pas des terres vierges, parce qu'il
y avait des terres,
parce qu'il y a des terrasses dernièrement.
Toute la colline, c'est une terrasse et c'est cultivé, tout à fait.
Il faut aussi préciser peut-être que les colons qui sont là-dedans ne sont pas toujours volontaires pour y aller, mais que en fait, le gouvernement de ça a des prix beaucoup plus bas que dans Israël.
Oui, non seulement ça, mais on en donne encore de l'argent pour y aller. Voilà. Donc, ouais, pas volontaire, en même temps, ils vont et ça ne les embête pas de prendre la terre de famille. Là.
À l'entrée de Bétomar, il y a donc un mirador, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. Et le dernier jour hein, de notre séjour dans ce village, on a entendu dire qu'on a pu passer d'abord, on a pu passer un enterrement. C'est assez spectaculaire, hein, il s'agit d'un enterrement d'hommes suivi par une foule d'hommes. Donc ils sont dans des bras, sur des brancards, avec une foule silencieuse assez impressionnante. Donc on nous invitait à observer ça par la terrasse. On allait pour se prêter au spectacle. Et un peu après, on a senti une odeur de poudre, de gaz, et se passer des événements à presque, je pense que c'est 2-3 km de la maison à l'entrée du village. Et pourtant, l'odeur était très forte. Et on nous a dit qu'il y avait des affrontements entre les soldats et les jeunes hein, qui jetaient des pierres et qu'il y avait des affrontements. Donc, le temps de descendre à pied le village, on a vu que le résultat. Et c'est-à-dire des pierres, des soldats partout, et surtout qui s'agitaient dans la tour du Mirador. Et on a appris après, dans la presse, que l'armée avait fait, en rentrant, hein, avait fait une incursion très musclée avec une dizaine de jeeps dans le cimetière, hein, et que pendant l'enterrement lui-même, hein, et que les jeunes du village avaient effectivement jeté des pierres dans le cimetière juste en contrebas du Mirador. On va revenir un peu sur Hébron, puisque il nous est arrivé d'autres aventures. À partir du moment où on a rencontré Riyad, il nous a servi de guide un petit peu dans puisque Riyad est né à Hébron, il connaît très très bien l'ancienne ville de Hébron, donc il a un regard tout à fait particulier. On a découvert avec lui, il ne connaissait pas non plus, un potier. Donc on est allé chez un artisan. Et qui a été très content de nous présenter son travail. Donc il y avait trois employés, le four était éteint, c'était plein après-midi. Mais on a quand même bénéficié de toutes ces explications. L'artisan, c'était un jeune homme, pas lui, qui reprenait aussi une aventure familiale de plusieurs siècles. Et un petit peu comme des jeunes qui se réinstallaient dans le village de Almoraya au début de notre séjour, hein, c'est un jeune qui venait se réinstaller dans la vieille ville de Hébron, dans lequel les échoppes ferment aussi, non seulement à cause de l'occupation, mais aussi il y a une forte concurrence, forcément avec leurs difficultés économiques du marché chinois, donc il y a beaucoup moins d'artisans palestiniens pour restituer tout leur savoir-faire ancestral. Et ce jeune homme était très enthousiaste et avait l'intention d'ouvrir une école pour former les artisans palestiniens, ce qui n'existe pas pour l'instant. Par exemple, il nous a raconté que certains Chinois étaient venus prospecter pour essayer de retrouver un savoir-faire que même en Chine, qui est quand même censé être le pays d'origine du travail de la porcelaine, hein, et de la poterie. Même en Chine, on vient maintenant leur demander des conseils. Donc ça l'a encouragé dans l'idée de développer une école d'artisanat. Voilà. Donc la poterie des Hébrons que nous connaissons bien ici. Et donc je vous rappelle que les centres de Ulkirch sont pleins. Ce n'est pas exactement le même professeur.
Dont l'informateur est là aujourd'hui. Notre ami Marie.
Donc le problème des Chinois, c'est que ça atteint aussi un autre artisanat à Hébron, c'est le cuir des chaussures, hein, qui reste un ou deux fabricants seulement, c'est ça?
Deux gros fabricants de chaussures.
De chaussures à Hébron. Voilà, donc ça a affaibli le...
Voilà, affaibli notre jeune noir.
Il nous a montré plein d'ambitions, il nous a montré les différents modèles. Alors, Priade aussi nous a ouvert les portes de l'université de Hébron, où se tenait une conférence organisée par le palestinien que vous voyez au premier plan, qui s'appelle Bassel, je ne sais plus, on ne va pas retenir son nom, et qui est un économiste, un jeune professeur d'économie, érudit, qui parle un français absolument parfait. Et qui a présenté en anglais donc cet intervenant londonien qui est un prof d'économie qui est spécialiste dans l'économie post-conflit au niveau mondial et en particulier au niveau africain. Donc Bassel a fait venir cet économiste pour ses étudiants. Il n'était pas très content parce que les étudiants n'étaient pas très nombreux dans l'amphithéâtre, mais l'exposé était brillant, il était traduit en arabe. On avait beaucoup de plaisir même à entendre l'arabe que nous ne comprenions pas malheureusement, tellement c'était tout avait l'air clair et limpide. C'était un vrai plaisir. Donc c'est évidemment un sujet qui ne peut que toucher les Palestiniens, celui de l'économie, de l'idéologie dominante quand il s'agit de vendre la paix aussi par les puissances dominantes. Et l'exposé a parlé, voilà, vous voyez, Mozambique, Afghanistan, Irak, voilà, l'exposé a traité des pays que Christopher Kramer, l'intervenant, avait étudiés. Et une fois qu'il s'est terminé, toutes les questions dans la salle ont recentré de façon, on était vraiment sidérés, hein, de façon incroyable sur le problème palestinien. Et en particulier, ont chargé, on a entendu ça de toute façon de tout le monde pendant tout notre voyage, l'autorité palestinienne. Donc toutes les questions ont ciblé la compromission du régime, l'économie vue par Mahmoud Abbas, et on était quand même, on était étonnés d'entendre ça de la part des dignitaires de l'université de Hébron. Voilà, c'est le parvis de l'université d'Hébron, et à nouveau Riyad et Chantal. Bon, on a beaucoup de photos avec des larmes, on ne vous les montrera pas, ou quittons dans un grand déchirement la famille à Boufati, à Bétomar, et nous rentrons au bout d'une semaine, donc la deuxième semaine de notre voyage, nous rentrons le 10 novembre à Jérusalem. Et voilà, donc Jérusalem, on n'a pas forcément la même perception que ce qu'on a entendu tout à l'heure, parce que pour nous, c'est toujours un peu dur de revenir à Jérusalem Est. On voit de plus en plus de boutiques qui ne sont plus tenues par des Palestiniens. Enfin, moi, j'étais qu'une fois précédemment en Palestine, et je n'ai vu Jérusalem Est qu'une fois, mais j'ai remarqué que juste autour de l'hôtel, il y a beaucoup plus de magasins qui sont tenus par des Israéliens, on entend plus parler hébreu, et donc ça c'est toujours un moment un peu difficile, on ne trouve plus une bouteille d'eau palestinienne à Jérusalem-Est, hein. On ne trouve que les fournisseurs israéliens, c'est une réalité, hein. Et donc on est reparti, on a eu un retour très, très difficile, donc on quitte Jérusalem dans le froid, sous la pluie, avec nos manteaux d'hiver, donc ça c'était déjà surprenant. Et le retour à l'aéroport de Tel Aviv était assez éprouvant parce qu'on a passé 3 heures et on a jusqu'au bout on a pensé qu'on n'embarquerait pas puisqu'on est monté les dernières dans l'avion après des formalités, on va dire c'était juste des formalités, hein. Je pense qu'il y a des retours beaucoup plus pénibles que ce qu'on a vécu. Très éprouvant, très désagréable et tout ce qu'on a, enfin sur le coup. Tout ce qu'on a reçu, parce que voilà, on a beaucoup insisté là sur l'occupation, mais évidemment on a reçu plus que, enfin je ne sais même pas ce qu'on a pu apporter à Bétomar, mais c'était extrêmement chaleureux dans la famille de Bétomar. Hein, et voilà, donc je trouve que tout le bénéfice a presque été effacé pour nous, tellement le retour a été éprouvant face à l'attitude. Très méprisante, arrogante, déplacée des autorités, voilà, qui sous la forme
de jeunes gens de petite taille qui vous questionnent avec un air très naïf, hein, qui découvrent que, voilà, que Dakar est au Sénégal et que le Sénégal est en Afrique parce que Chantal est née à Dakar. Voilà, donc c'est
un gros problème.
Ouais.
Ça a posé un problème.
Ça leur a posé plus de problèmes, mais non. Voilà, ça leur a posé un problème.
Je suis avec mon passeport Dakar-Sénégal, où est-ce que ça non, pourrait bien être le truc
c'est bon.
Alors, je vais vous montrer quand même le degré de culture et de... voilà,
des moi, j'avais des...
Et ils sont allés voir le chef en disant, oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça, Dakar-Sénégal, mon Dieu, bon. Et bon, ils sont venus, ils m'ont rendu mon passeport, et après, ils m'ont fichu la paix. Relativement, enfin, et c'est Claudia, elle, qui a subi les fouilles des pieds à la tête.
Corporelle aussi, qu'est-ce que tu veux dire par la même terre?
Quel genre de fouilles?
Non, non, les fouilles des affaires.
J'étais tout habillée. C'est pas ta question, hein, c'est d'une peur.
Nous, on a aussi été fouillées, comme toi aussi, et nous, on a eu des fouilles corporelles aussi.
T'as eu des fouilles comme ça va monter, je suis la raconte.
Ça va pas trop.
Moi et Fabienne aussi, notre retour était très, très éprouvant. Alors moi quand j'ai donné mon passeport, alors mon nom bien sûr c'est Adri Rachida et du coup il me dit sors ton passeport israélien. Je le regardais comme ça, je dis mais j'ai pas de passeport israélien. Il me dit si sors ton passeport israélien. Je dis mais je suis pas israélienne. Alors du coup, parce que bon, je ne suis pas partie voilée comme ça, mais j'avais un béret, et puis je pense que physiquement, je devais ressembler à une israélienne. Et du coup, ça ne leur avait pas très beaucoup plu aussi. Ben, on était bien fouillés, comme vous l'avez dit, corporellement et tout. Ça nous a, franchement, moi j'avais même peur pour Fabienne, parce qu'elle était beaucoup plus retenue que moi. Et je me suis dit, ça y est, elle va pas partir, qu'est-ce que je vais faire? J'étais vraiment angoissée. Le retour était très éprouvant. Ça ne me donne pas envie de revenir, mais c'est vrai que c'était limite. Moi, ils ont pris tout ce qui était shampoing et des cadeaux aussi qu'on nous a donnés. D'ailleurs, ils sont toujours à l'aéroport de Mulhouse. J'ai pas encore pu récupérer mes certaines affaires. Ils ont retenu, ils ont mis dans un autre carton, et puis voilà. Quoi.